Est-ce vraiment attribuable à la campagne « J'aime 5 à 10 portions de fruits et légumes » Mais toujours est-il que les Québécois consomment de plus en plus de ces végétaux.
On peut dire que cette campagne-là a fait beaucoup de chemin depuis sa création, qu'elle a conquis le cœur des Québécois et qu'elle a certainement eu un impact positif dans les habitudes alimentaires des consommateurs. Et c'est ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde les statistiques de consommation, on voit que 46 % des Québécois consomment plus de 5 portions de fruits et de légumes, comparativement à 40 % pour le reste du Canada. Donc, on peut certainement dire qu'ensemble, on fait du bon travail.
Julie Desgroseilliers, nutritionniste, était porte-parole pour la campagne J'aime et continue de l'être pour le mouvement pour les fruits et légumes.
Après 14 ans, c'était pertinent de penser à innover, d'actualiser notre image et de maintenir la pertinence du contenu, d'où la création du nouveau mouvement J'aime les fruits et légumes et un nouveau logo. En fait, ce nouveau logo-là est vraiment à l'image de notre industrie. On y voit les 5 groupes couleurs des fruits et légumes. On a travaillé une typographie qui est toute en douceur, qui est arrondie, qui est encore une fois à l'image des fruits et légumes. On peut dire aussi que le cœur, c'est un peu comme un torse bombé de fierté. Ça évoque un certain dynamisme. Ça évoque même la santé. Donc, je pense que c'est vraiment très, très bien réussi. Sachez que ce mouvement-là va succéder à la campagne « J'aime 5 à 10 portions par jour », toujours comme objectif d'aider la population québécoise à consommer plus de fruits et légumes. On souhaite vraiment demeurer dans le plaisir et s'éloigner de la notion de prescription. Donc, on veut s'éloigner des chiffres et aussi s'arrimer avec les nouvelles tendances alimentaires parce que si on pense, par exemple, au nouveau guide alimentaire canadien qui va certainement sortir d'ici décembre, il est fort à parier qu'on va s'éloigner du 5 à 10 portions de fruits et de légumes par jour. Bref, la QDFL se devait d'être le porte-parole privilégié et d'anticiper ces changements-là. Le fait de ne pas imposer aussi un 5 à 10 portions, bien, ça fait en sorte que le concept est peut-être moins moralisateur, davantage axé sur le plaisir. Et pour moi, ça, c'est une notion qui est hyper importante parce que quand on aime, on compte pas. Et d'ailleurs, cette notion de plaisir-là devrait être l'essence même de ce mouvement.
En soutien au mouvement, le logo, l'image de fruits et légumes stylisés en forme de cœur, continuera d'être utilisé.
Les cœurs que vous connaissez vont continuer à vivre, ils vont continuer à être utilisés par vous, par nous, dans nos différentes communications.
Donc, longue vie au mouvement pour les fruits et légumes. Ce lancement se tenait après une discussion, un panel sur la situation et les perspectives d'avenir en alimentation, mais surtout dans le secteur des fruits et légumes. Le panel était animé par Stéphane Bureau. Sylvain Charlebois, doyen de la faculté de management de l'Université Dalhousie, où il est également professeur, croit que les prix vont être encore un bon moment le facteur déterminant du choix des consommateurs.
C'est un secteur qui est conservateur, qui a peur des risques. Pourquoi?
Ben, diriez-vous pépère, un peu?
Non, je dirais pas là.
D'accord.
Ça fait partie, dans le fond, il faut l'accepter ainsi parce que, évidemment, en production, on ne contrôle pas les conditions du marché. On est vulnérable. En transformation, les marges sont très
minces.
Encore plus minces à la distribution et au détail. Alors, vraiment, on est à la merci des marchés. On parlait tantôt, les gens veulent savoir s'ils veulent savoir l'histoire derrière les aliments. Je me pose toujours la question, oui, les gens veulent savoir d'où viennent leurs aliments. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour cette histoire-là? Là est la question. Alors, pendant des années, j'ai l'impression que l'industrie n'a pas vu la plus-value ou savait que le consommateur n'était pas prêt à payer pour l'innovation ou les investissements que l'industrie voulait faire. Mais les choses ont changé depuis quelques années. Si on compare le Québec avec l'Ontario, le momentum est derrière les fruits et légumes, c'est clair. J'étais à London, en Ontario, mercredi. Je donnais une conférence au secteur du bœuf. C'était démoralisant. Le moral était bas. Ici, les gens sont de bonne humeur. On voit, il y a une croissance à gérer. C'est un beau problème à avoir. C'est un peu ça qui se passe dans l'industrie au niveau de l'innovation. On va innover si on voit qu'il va y avoir un résultat à la fin. Mm. Et c'est ce qui arrive dans les fruits et légumes actuellement. C'est certain qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui veulent explorer la curiosité, finalement, est payante, la diversité est payante. On le voit dans le cannabis, par exemple. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer avec le cannabis. C'est la curiosité qui va pousser les gens à essayer les produits comestibles éventuellement. Moi, je suis convaincu. On le voit dans les statistiques. Il y a une curiosité. Qu'est-ce qui va se passer par après? Les fruits exotiques, tout ce qui arrive d'ailleurs. Les gens voyagent davantage. On le voit à l'université. On pose la question aux étudiants qui ont un passeport. La majorité des étudiants à l'âge de 20 ans ont un passeport. Or, il y a 20 ans, il n'y a pas grand monde qui avait un passeport. Évidemment, tout ça influe sur la façon qu'on perçoit l'alimentation aujourd'hui.
Alors, je reviens à ça. On peut penser qu'il serait possible de vivre dans un monde où on paierait plus cher parce qu'on respecterait différemment notre produit aussi. Où on aurait, il y aurait un caractère exclusif qui fait que ben, ton légume ou ta patate n'est pas banale.
Le prix demeure vraiment le critère le plus important. Okay. Ça va le demeurer encore pour longtemps. Il y a d'autres critères qui émergent. Le volet pratique, curiosité, nouveauté. Ce genre de choses-là, on le voit de plus en plus. Mais le prix va dicter les conditions du marché, puis je pense que la plupart des gens dans la salle le savent.
Si l'importance des prix semble un peu immuable, le secteur des fruits et légumes doit par contre s'adapter rapidement aux nouvelles technologies. Les changements sont incontournables.
La raison pourquoi que le Carrefour en Europe a décidé d'embarquer dans la blockchain...
Carrefour, on parle du distributeur alimentaire?
Exact. Walmart aussi aux États-Unis. La raison est simple, c'est qu'on développe une efficacité incroyable de distribution pour la gestion des données en amont et en aval. Par exemple, on peut rappeler des aliments assez rapidement. La fraude alimentaire et dans les fruits et légumes, il y en a. C'est l'éléphant dans la salle. Il y en a. Bio, etc.
Du faux bio, c'est ce que vous voulez.
Exactement. Avec la chaîne de blocs, l'espoir, et je dis bien l'espoir parce que ça n'a pas été démontré encore, c'est un concept qui est intéressant, mais est-ce que ça peut fonctionner en réalité? Je l'ignore, mais on pourrait permettre l'industrie à se protéger de la fraude alimentaire et à mieux gérer les rappels alimentaires, qui est toujours un problème.
Pour l'essentiel, quand on parle de fraude alimentaire, dans le cas qui nous intéresse ici dans la salle, c'est par exemple de vendre un produit qui ne serait pas ce qu'il dit être, par exemple bio quand il ne l'est pas.
Bien, disons, il y a trois types vraiment de fraudes qui sont vraiment, vraiment importants. La contrebande, la mauvaise représentation, comme vous venez de le dire, là, bio, pas bio, local, pas local, on en voit beaucoup. Mm-hmm. Et aussi la substitution d'ingrédients pour un ingrédient moins cher. Ça, souvent, on le voit. Bien, la viande chevaline, c'était vraiment ça qui s'est passé en Europe. On a remplacé le bœuf pour de la viande chevaline qui était donnée en Europe de l'Est. Et on a vu le scandale qu'on a vu. En Amérique du Nord, on n'a pas eu encore le scandale, mais je ne serais pas surpris d'en voir un d'ici quelques années.
Est-ce que cette technologie des chaînes de blocs est actuellement développée, mise en place au Québec?
Le seul projet pilote que je connais, peut-être que je me trompe, mais le seul que je connais est effectivement au Québec dans l'industrie du bœuf. Et c'est un projet pilote qui a démarré il y a quelques semaines.
L'hésitation, voire la réticence face aux technologies numériques serait une erreur, affirmait plus tôt au congrès de la QDFL Jean-Marc De Jong, spécialiste de l'innovation et de l'avenir numérique. C'est lui qui a orchestré le virage numérique du quotidien La Presse.
Pour moi, le leader, ce n'est pas nécessairement le patron. C'est n'importe qui, quelque part, qui veut aller au-devant de quelque chose, en avant d'une équipe. Alors, dans une entreprise comme La Presse, il faut se le dire, là, qui est un mammouth, 133 ans, faire une transformation avec des journalistes qui, honnêtement, sont peut-être les gens les plus résistants au changement parce que leur travail, c'est de critiquer, c'est de mettre en doute, c'est de challenger. Alors, quand tu présentes un plan, quand tu présentes une idée, tu as besoin d'être solide parce qu'il y a énormément de scepticisme dans la salle. Alors, si La Presse a réussi dans un univers qui est complètement disrupté, là, le monde de la publicité, le monde de la consommation des médias a complètement changé. Donc, sur plusieurs fronts, soit les consommateurs, mais soit aussi nos revenus, les annonceurs. Ensuite, on a eu des défis vraiment, vraiment importants. Et l'histoire de La Presse Plus commence par une constatation. Quand on regarde les chiffres, qui étaient une tendance industrielle de toute l'industrie des médias, on se demande qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas correct, puis qu'est-ce qu'on fait comme entreprise? Est-ce qu'on suit la parade ou on essaie de faire autre chose? Et il y a un choix qui se présente devant nous comme entreprise, il y a un choix qui se présente devant nous comme individu aussi. Je sais que j'ai l'impression que je suis rendu au sommet peut-être de mon domaine, de mon expertise, ça va bien. Je pourrais me contenter de ce plafond-là, tout va bien. Mais dans l'univers qu'on a aujourd'hui, qui va excessivement rapidement et que tout change, vos clients, les distributeurs, les employés, tout change tellement vite. Si on pense qu'on peut rester là longtemps, on va être surpris. Habituellement, ce qui se passe, si on ne change rien, on va disparaître. Et l'autre choix qu'on a, c'est de dire non, je vais couper mes coûts opérationnels, je vais essayer de rendre ça plus optimal, de faire plus de sous. Et là, vous allez juste prolonger un peu plus, comme les Américains disent, milking the cow, presser le citron. Vous regardez, prolonger un peu plus longuement votre entreprise ou votre carrière. Et si vous voulez vraiment perdurer dans l'univers d'aujourd'hui, puis vous pouvez le demander au chauffeur de taxi, il faut décider de dire on va adhérer à de nouvelles compétences, on va aller toucher un nouveau domaine. C'est sauter sur jump on the next curve, sauter sur la prochaine courbe, c'est sauter sur celle-là, sauter sur la courbe pour demeurer pertinent. Puis vous allez voir que ça passe par des endroits assez clairs, assez simples, qui souvent nous font peur.
Revenons au panel animé par Stéphane Bureau, qui demandait à Isabelle Marquis, consultante en stratégie marketing, d'élaborer à propos des tendances lourdes en alimentation.
C'est vrai que le monde change beaucoup et que manger, c'est devenu très politique. Ça l'a toujours été, mais ce l'est plus maintenant.
C'est devenu politique et j'ai envie de dire, il y a de plus en plus de feu dans les discussions qui sont autour de nous. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que les sujets se diversifient parce qu'on est de plus en plus renseignés. Déjà, pour faire un topo de départ, je dirais qu'en matière d'innovation alimentaire, en Amérique du Nord en particulier, la tendance lourde ou la direction que prend l'innovation depuis déjà un certain nombre d'années, c'est sous l'axe de plaisir. Quand on analyse l'innovation alimentaire, on aime segmenter ça, je vous dirais, sous cinq grandes thématiques qui représentent, simplement dit, les grandes revendications des consommateurs. Qu'est-ce qu'on recherche en particulier quand on veut s'alimenter?
Mais je vais faire une parenthèse. Est-ce qu'il est possible qu'on assiste en ce moment, puisqu'on parle d'innovation, à une effervescence depuis quelques années qui est supérieure à tout ce qu'on a vécu pendant très longtemps?
Oui. Définitivement, mais pas juste en nombre d'innovations, mais j'ai envie de vous dire en qualité et en complexité d'innovation. Le plaisir demeure l'axe dominant en innovation alimentaire, à la fois au niveau de l'offre qu'on nous propose, mais aussi comme préoccupation ou intérêt premier des consommateurs dans leur choix alimentaire. Mais ce qui est après changé, le vent tourne véritablement parce que ce n'est pas nouveau que le plaisir domine. On s'entend, le plaisir de manger, c'est assez instinctif, c'est multisensoriel, culturel, social, etc. Mais là où le vent tourne, c'est que le plaisir n'est plus que multisensoriel. Le plaisir de manger n'est plus qu'associé ultimement et exclusivement au goût, aux arômes, à la beauté de ce qu'on nous présente. Il y a d'autres préoccupations en matière de santé, en matière d'éthique notamment, qui étaient des axes d'innovation qui ont toujours été présents, mais secondaires et joués différemment, qui aujourd'hui deviennent des critères ou presque des portes d'entrée au plaisir. On se rend compte, autrement dit, que manger quelque chose qui nous fait du tort, soit à nous pour notre santé ou à nos enfants, ou qui fait du tort à la planète ou qui fait du tort à des animaux, bien, tout d'un coup, le plaisir est moins plaisant. Donc, cette notion-là de plaisir devient un plaisir non plus...
Elle est un peu bridée par nos préoccupations.
Voilà. C'est plus juste un choix qu'on fait par rapport à nos préférences gustatives, mais un choix qu'on fait par rapport à nos valeurs et nos préoccupations en général.
Il faut donc avoir un certain plaisir. Guillaume Quentin, gagnant de la première édition de l'émission Les Chefs, lui, n'avait plus beaucoup de plaisir à être chef. Il travaille maintenant à éliminer le plus possible les pertes et le gaspillage alimentaire, des phénomènes malheureusement importants.
La restauration, il faut se le dire, ça nous mange. C'est quelque chose qui peut être assez dur, ça fait des grosses semaines. Puis j'ai pris un recul par rapport à ça, puis j'étais avec un ami aussi, lui qui était d'un milieu qui connectait des chefs avec des agriculteurs. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport au gaspillage? C'est un sujet qui nous parle avec nos compétences de positif pour changer la donne. Puis c'est le genre d'ami qui aime ça me lancer des défis, qui m'a dit, Guillaume, écoute, je te mets au défi de faire un repas gastronomique à partir de déchets, puis on va faire du dumpster diving.
Du dumpster dining?
Puis là, diving.
Diving. Ou dining à la fin de la journée. Ben.
Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Sur le coup, quand t'es chef, tu te dis, ouais, pas sûr, cette idée-là, elle me parle pas trop.
Mais est-ce que vous y avez-vous cru un peu ou pas pantoute?
Non, mais dans le sens que je dis la réaction sur le moment.
Mais c'est ça,
là,
mais sur le coup?
Sur le coup, ça m'a un peu... c'est ça qu'il voulait, il voulait m'ébranler. Puis au final, je suis quelqu'un qui aime les défis. exemple, l'émission Les Chefs. Puis, je me suis dit, non, je vais embarquer. Fait que on s'est mis à s'entourer de gens avec une journaliste du devoir, des photographes professionnels, des gens qui ont voulu participer. Puis, on a fait un repas pour 12, mais le but, c'était pas que les gens viennent juste au repas, c'était qu'ils mettent les mains dedans avec nous. On a sauté en des containers. Ce qu'on a vu, c'est que oui, il y avait une certaine quantité, si on s'en doutait, mais c'est la qualité qui nous a surpris, la qualité des fruits et légumes. Puis, cette expérience-là nous a vraiment, sans jouer ces mots, transformé en tant que tel. Tout ce groupe de gens-là, de mettre les mains dedans, change la perspective. Après ça, veut, veut pas, le projet qu'on est en train de mettre en place, c'est un projet d'anti-gaspillage alimentaire, mais on veut pas aller dans une moralisation, une culpabilisation des choses. On est vraiment allé chez des commerçants, on a rentré dans des commerces, pas de rendez-vous là, sollicitation à froid. On s'est mis à leur demander, est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà essayé des choses? Beaucoup de gens se sont ouverts à nous. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'une solution efficace, adaptée à leurs invendus. À partir de ça, on a parlé d'un service de collecte, puis c'est là que ça a vraiment connecté les gens sur du petit, moyen commerce et quelques grandes surfaces. Puis la proposition aujourd'hui qu'on leur fait, nous autres, on part du principe qu'à la transformerie, c'est assez simple. On croit que c'est possible d'enrayer le gaspillage alimentaire. On veut amener une délicieuse solution aux invendus au niveau des épiceries puis des fruiteries. Fait qu'on amène un service de collecte structuré, adapté. Il y a une partie des fruits et légumes qu'on collecte, qu'on fait des tartinades salées ou sucrées en conserve. Cette conserve-là est rachetée par le commerçant et il la vend. Ce qui surprend, en toute humilité, c'est que cette conserve-là, les tartinades sont d'une très bonne qualité dans le sens que les fruits et légumes qu'on collecte sont parfaitement mûrs au moment où on les collecte. Souvent, les consommateurs, je suis sûr que vous le savez, vont acheter les produits pour les faire mûrir à la maison. Fait que nous, quand on les collecte, sont superbes, fait qu'on les prend, puis rapidement, on les transforme, la conserve capture le goût. Fait que c'est l'outil parfait pour ça. Et ce qui surprend le commerçant, quand il vient, il vend le pitch avant de disparaître du projet, parce qu'on lui fait goûter le truc, c'est qu'il fait, je peux pas croire que c'est fait à partir d'un vendu. Ça.
Ici Lionel Levac. Le 71e congrès de l'AQDFL aura été fort bien rempli. Un dernier point, l'association a cette année décerné le titre de pilier de l'industrie à Pat Calabretta de l'entreprise SunGrape. Au revoir.